VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, il est 12h ici à Washington et 16h à Abidjan. Au moins 6 villageois ont été tués et plus de 50 enlevés dans la nuit de lundi à mardi dans l'extrême nord du Cameroun par des présumés islamistes nigérians de Boko Haram, affirment des sources concordantes. Selon un membre du comité de vigilance d'un village voisin, le bilan serait de 8 morts et 135 personnes enlevées. Des présumés auteurs de cette attaque ont été arrêtés, indiquent les autorités camerounaises. Et ce pays a fermé une partie de sa frontière, de sa longue frontière fluviale avec le Nigeria, pour stopper de possibles attaques des djihadistes de Boko Haram dans le secteur. Plus de précisions avec Jacques Aristide qui se base sur un reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique sur place, Moki Edwin Kinzeka.
La guerre contre Boko Haram ne cesse de s'intensifier dans le sud-ouest du Cameroun. Le gouverneur de la région affirme avoir pris des mesures pour sécuriser les voies d'accès maritime, pour empêcher le groupe nigérian d'utiliser la frontière fluviale longue de 300 km avec le Nigeria pour planifier des attaques. Bernard Okalia Bilai indique que ceux qui importent et exportent des marchandises opèrent pour la plupart dans des zones où les terroristes ont été très actifs. Des points de contrôle ont également été mis en place afin de passer à la loupe tous les passagers et les marchandises.
Merci Jacques Aristide. Au Burundi, depuis l'assassinat d'Adolphe Nishimiramana, dimanche à Bujumbura, suivi de l'attaque du défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa, toutes les nuits sont ponctuées par des tirs à l'arme automatique dans les différents quartiers de la capitale. Hier soir, un membre du parti présidentiel a été tué dans Bujumbura rural. Les témoignages de la population affirment que deux policiers ont aussi été tués dans le quartier de Kibitoke. Ces tueries à mobile politique deviennent monnaie courante. La communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis appellent au dialogue initié par le médiateur Yoweri Museveni. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Des sources sécuritaires ont indiqué qu'après l'assassinat hier de Com Harerimana, un membre du parti présidentiel dans la commune de Kanyoshe, dans Bujumbura rural, deux policiers auraient été tués ce mercredi matin dans le quartier de Chibitoke, une information qui n'a pas été confirmée par la police. Chibitoke est une circonscription qui a toujours manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, jugé anticonstitutionnel par les opposants burundais. Des journalistes indépendants ont peur d'aller sur terrain prendre des photos, craignant pour leur sécurité. Depuis que le correspondant de RFI et de l'agence France Presse, Esdras Ndikumana, a été tabassé par des agents des services de renseignement le jour où des gens armés ont tué à la roquette le numéro 2 du régime, Adolphe Nshimirimana. Les sources sécuritaires sont unanimes à affirmer qu'il y a eu une résurgence de l'insécurité, même si le président burundais avait appelé au calme dans un message à la nation. La mort de l'ancien chef des renseignements avait été suivie par une attaque 24 heures plus tard contre le défenseur des droits humains au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, dont l'état est actuellement stable selon sa famille. Mardi dans l'avant-midi, un responsable militaire d'une garnison à Kayanza, au nord du pays, avait été blessé tandis que son garde-camp avait été tué selon des sources militaires contactées. La communauté internationale, tout en condamnant ces assassinats, demande que les auteurs de ces meurtres soient traduits devant la justice. L'ONG International Crisis Group constate qu'il y a un changement qualitatif dans la violence et que l'on est entré désormais dans les prémices de la guerre. International Crisis Group appelle à une réaction de la communauté internationale urgente et à la hauteur du problème. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
En Guinée, le gouvernement invoque le manque de préparation des forces de sécurité dans sa réponse au rapport de Human Rights Watch qui accuse les autorités d'usage excessif de la force lors des récentes violences qui ont fait au moins 2 morts et 146 blessés à Conakry. Chérubin Dorsil.
La réponse des autorités guinéennes, reprise par l'agence France-Presse, intervient 5 jours après la publication du rapport. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantan Camara, une majorité des forces de sécurité n'a pas un niveau de formation adéquat, ce qui rend plus difficile le maintien de l'ordre.
Merci Gaby. En Côte d'Ivoire, début de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale dans le cadre de la réconciliation. Le président Alassane Ouattara a personnellement donné le coup d'envoi de cette opération, Eddy Issango.
Au total, 4 500 personnes doivent bénéficier de cette indemnisation. Mais selon le président du Programme national de cohésion sociale, Mariatou Koné, l'opération concernera dans un premier temps 3 500 ayant droit des personnes décédées durant les violences qui ont suivi l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Un chèque de 1 500 euros sera remis à chaque ayant droit à titre symbolique pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a précisé M. Koné. La commission à charge prévoit une deuxième phase après la réception de la liste consolidée.
Merci, Eddy Issango.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, un troisième opposant notoire interdit de départ à l'étranger par les autorités. Après Pascal Tchati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, et Rigobert Ngolali, un autre membre de l'opposition, c'est maintenant René Blanchard-Oba, président du MDS, qui se voit confisquer son passeport et refuser le droit de quitter le pays. La réaction de ce neveu du président Denis Sassou Nguesso au micro de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngosu.
Je suis en ce moment porteur d'un clou de 53 cm au fémur gauche. À cette date, je suis attendu en France par mon médecin pour un contrôle et suite à donner aux soins inhérents. Mon étonnement est donc grand de constater que je suis interdit de quitter le territoire national. Le lien pour moi est très évident. Il établit le rapport avec mes dernières prises de position sur la question du changement de la constitution du 20 janvier 2002 en début de soirée. Lors des formalités de police, par le protocole national et mon GDC, l'officier de service leur a signifié verbalement l'interdiction de quitter le territoire national, arguant que c'est sur instruction personnelle du chef de l'État. Aussi, si le passeport diplomatique leur était présenté, mission leur a été donnée de le retirer afin de le remettre à monsieur le directeur général de la surveillance du territoire. Je n'ai tué personne. Je suis un citoyen congolais libre. J'ai le droit d'aller me soigner. J'ai le droit de dire non au changement de la constitution du 20 janvier 2002 sans que cela m'expose à des méthodes que même l'URSS, à son époque de gloire, avait abolies. Ces faits graves et arbitraires traduisent une traque et un harcèlement manifeste de certains acteurs politiques, d'où un sentiment de traitement à géométrie variable entre citoyens d'une même nation. Hier, ne l'oublions pas, ce sont ces sentiments d'injustice qui nous ont conduits au drame.
C'était René Blanchard-Oba, président du MDS. Naufrage au large de la Libye, des centaines de disparus et une centaine de survivants ont pu être récupérés. Un bateau avec environ 600 personnes à bord a chaviré aujourd'hui. L'armée du Soudan du Sud a qualifié mercredi de propagande les accusations des rebelles selon lesquelles l'acheminement de la nourriture serait bloqué pour mieux les affaiblir à l'approche de nouvelles négociations censées mettre un terme à 19 mois de guerre civile. Les Nations Unies et plusieurs organisations humanitaires avaient déjà constaté une limitation de l'accès à l'aide, notamment dans des zones déjà menacées par la famine. De son côté, le président Barack Obama a fait pression sur les leaders du Soudan du Sud pour qu'ils respectent la date prévue afin d'accepter les accords de paix visant à mettre fin à la guerre civile dans ce pays. Deux Éthiopiens, un Pakistanais et un Soudanais, condamnés à mort en Arabie Saoudite, ont été décapités au sabre mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ces décapitations portent à 114 le nombre des personnes exécutées depuis le début de l'année dans le royaume wahhabite contre 87 sur l'ensemble de 2014. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Prochain rendez-vous dans 50 minutes. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.